Bonjour et bienvenue à ce 48e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour.
Bonjour.
Avec des taux d'intérêt qui frôlent le 0%, est-ce que les titres à revenu fixe, surtout, là, on parle surtout d'obligations ici, est-ce que les obligations, dans le fond, ont encore leur place dans un portefeuille d'investissement?
Oui, non, encore, mais de manière différente. Parce que traditionnellement, puis encore, en fait, encore aujourd'hui, là, les trois raisons pour lesquelles on détient des revenus fixes, c'est les suivantes. La première, c'est la protection du capital. On veut s'assurer que si on dépose 100 $, on va avoir 100 $ plus tard. Le deuxième objectif qu'on cherche à avoir avec les revenus fixes, c'est le revenu courant. Donc, on parle souvent là, d'intérêts générés. Ce sont les liquidités qui sont générées par nos investissements qui vont nous aider pour nos dépenses courantes de tous les jours, lorsqu'on sera à la retraite, par exemple. Puis la troisième chose, un terme scientifique qu'on appelle la corrélation négative. Ça veut dire quoi en français, ça? C'est tout simplement que les obligations ont tendance à bouger à l'inverse des actions ordinaires. Donc, quand nos actions baissent, nos obligations auraient tendance à augmenter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de titres à revenu fixe qui peuvent se vanter de faire les trois.
Mais comment faire pour que ça réponde aux trois objectifs?
C'est difficile de trouver une catégorie d'actifs, une catégorie de revenus fixes qui va répondre à ces trois critères-là. Par contre, il y a certains titres qui vont répondre à des critères très spécifiques. Comme par exemple, si on cherche la protection du capital, ben, ce n'est plus une obligation à long terme qu'on va investir, mais plutôt des marchés monétaires, donc, ou à la limite, garder du cash dans le portefeuille. Et puis, le bon vieux certificat de placement garanti, hein, le CPG, à condition qu'on respecte les conditions des assurances dépôt du Canada, le SADC, là, qui dit qu'on doit investir moins de 100 000 $ par banque,
par institution bancaire.
Par institution bancaire, effectivement. Si on regarde, par contre, le revenu courant, ben alors, faut augmenter dans l'échelle de risque. Il faut aller du côté des actions privilégiées qui payent beaucoup de revenus en dividendes, en plus, si on cherche un avantage fiscal. Et puis, on peut regarder avec les titres corporatifs qui ont un plus grand risque de crédit. Donc, le risque de crédit va générer des taux d'intérêt plus élevés. Si on cherche, par contre, le troisième élément qui est la corrélation négative, c'est beaucoup moins évident de trouver un type de revenu fixe qui va répondre à cela. C'est-à-dire que on veut s'assurer que si les actions baissent, que nos revenus fixes montent, pour que les obligations continuent de monter, il faudrait que les taux d'intérêt passe du côté négatif au Canada, et puis on sait que ça va être difficilement réalisable.
Si j'avais des taux d'intérêt négatifs dans mon portefeuille d'obligations, mais je demanderais aux gestionnaires de fonds de liquider tous ces titres-là pour justement aller chercher un maximum de rendement. Pourquoi c'est pas ça qui se passe en ce moment sur les marchés?
Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des pressions très, très, très importantes pour garder la stabilité de l'euro. En fait, ça, c'est le marché européen. Et puis, tout ça crée toujours un jeu d'offres et de demandes. Alors, on a tendance à se dire, en tant qu'investisseur, bien, si je suis sûr de perdre de l'argent, pourquoi je ne garde pas juste mon argent en cash? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir 100 000 $ puis investir 10 milliards de dollars, surtout quand ce n'est pas ton argent, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que si je suis un gestionnaire de fonds et puis que j'ai le mandat d'investir 10 milliards de dollars, je ne le laisserai pas à la banque parce que si la banque APC fait faillite, alors je perds mon 10 milliards. Je n'ai pas de protection de capital. Par contre, si j'achète une obligation de l'Allemagne, par exemple, ce serait très difficile à croire que l'Allemagne pourrait faire faillite. Mais d'un autre côté, j'ai un rendement négatif assuré.
En ce moment, si je résume la situation selon vous, il faudrait, dans la mesure du possible, éviter le plus possible les titres à revenu fixe et garder son argent là où ça risque d'être plus payant, c'est-à-dire sur les marchés boursiers.
Ben, en fait, c'est pas exactement ça. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que si vous avez besoin de revenus fixes dans votre portefeuille, c'est pas évident que le fonds mutuel standard d'obligation là, qui vous est proposé par les banques, par les assureurs ou par les fonds mutuels va répondre à vos besoins. Alors, à ce moment-là, je tendrais plus vers évaluer quels sont vos besoins. Est-ce que c'est de la sécurité du capital? Est-ce que c'est du revenu courant? Et à ce moment-là, d'aiguiller vos investissements soit dans des CPG ou dans des titres qui payent des plus gros de revenus ou de rendements.
Et pourquoi justement un fonds d'obligation standard ne répondrait pas aux objectifs d'investissement des consommateurs?
Alors, on aurait tendance à penser hein, que c'est un fonds mutuel, donc c'est très diversifié, ça devrait répondre à plusieurs caractéristiques. faut comprendre que la plupart des fonds mutuels obligataires au Canada, comme je disais, que ce soit banque, assureur ou fonds, vont se ressembler beaucoup parce qu'on cherche à calquer un indice qu'on appelle l'indice Univers Canada. Et puis, dans ça, on a 75 % des investissements qui sont des titres qui sont similaires. En fait, qui sont différents, mais ils sont tous influencés par le même facteur. Et puis, ce facteur-là, c'est les taux d'intérêt en vigueur. Donc, pour comprendre, là, quand on investit dans un fonds mutuel standard au Canada, on se trouve à acheter l'équivalent d'une obligation qui va nous payer, en date d'aujourd'hui, 1,3 % pour 8 ans. Alors, si on regarde les trois facteurs, là, est-ce qu'on a la sécurité du capital avec ça? Pas évident. Si les taux d'intérêt montent de 1 % et tout ça, c'est facilement calculable, là, on va perdre 8,4 % de notre capital. Si les taux d'intérêt montent de 2 %, c'est 16,8 % que le portefeuille va descendre. Et puis, si les taux d'intérêt devaient monter à 3 %, c'est le quart du portefeuille qui va s'effacer. Alors, la sécurité du capital n'est pas nécessairement couverte par ça. Puis, si on regarde au niveau du revenu courant, là, si je cherche un portefeuille qui va me générer, par exemple, 1 000 par semaine, bien, écoutez, ça prend un portefeuille de 4 millions de dollars pour générer un 50 000 par année. Parce que présentement, avec les taux en vigueur, on ne génère que 130 $ par 1 000 investis. Puis, comme je vous avais expliqué, là, est-ce que ça va transiger d'une manière inverse aux actions ordinaires pour amener une protection? C'est pas nécessairement. Ça se peut très bien que les actions ordinaires baissent et puis que les taux d'intérêt se mettent à monter. Et puis, le cas échéant, bien, tu vas avoir ton portefeuille obligataire qui va baisser en même temps que tes actions ordinaires.
Évidemment, ce n'est pas un scénario qu'on souhaite. Mais je vous remercie beaucoup, M. Fournier.
Exactement. Merci.